Bonjour à tous. Premier jour d'une nouvelle série consacrée à la Chine industrielle telle qu'elle apparaît et se découvre dans la fiction. Et c'est un romancier, lauréat du prix Nobel de littérature, Mo Yan, qui nous emmène le premier à la découverte du monde d'avant, avant le formidable boom économique des années 80 qui va transformer la société chinoise tout entière. La modernité pénètre dans les campagnes à marche forcée et les grandes réformes décidées à Pékin sont autant de bouleversements de ce monde paysan que Mo Yan a connu de près, un univers traversé par des rêves d'enrichissement et d'ascension sociale. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour explorer les campagnes chinoises selon Mo Yan, nous accueillons à distance Jean-Philippe Béja, sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Avec nous également par téléphone, Chantal Chenandreau, maître de conférences honoraires à l'Université Paris 7 et traductrice de Mo Yan, notamment de la dure loi du karma et du grand chambard, on en reparlera. En fin d'émission, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Jean-Philippe Béja et Chantal Chenandreau, bonjour.
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 On va commencer par une archive de la radio-télévision française du 13 décembre 1956.
Les paysans, savez-vous d'abord combien ils sont en Chine? Eh bien, ils sont 500 millions, 500 millions de paysans. On pourrait croire que la révolution industrielle, qui est déjà pas une petite affaire, suffit à cet énorme pays. Eh bien, non. Les Chinois, avec une audace vraiment incroyable, se sont mis sur les bras une deuxième révolution, une formidable révolution dans les campagnes, qui double la révolution industrielle. On a beaucoup entendu parler en France de la réforme agraire chinoise. Elle faisait des petits propriétaires avec ces paysans qui avaient jadis travaillé comme serfs sur la terre. Eh bien, aujourd'hui, le régime reprend aux paysans la terre qu'il lui avait donnée. La Chine est en marche vers les kolkhozes et on va vers des salariés de la terre dans la Chine entière.
Des salariés de la terre dans la Chine entière. Jean-Philippe Béja, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur cette réforme agraire lancée par Mao en 1950 et qui constitue la toile de fond de nombreux romans de Mo Yan?
Si vous voulez, la réforme agraire est en fait une révolution agraire. Alors rappelons que le Parti communiste chinois est arrivé au pouvoir grâce au soutien des paysans. C'était la fameuse théorie de Mao de l'encerclement des villes par les campagnes, ce qui n'est pas très orthodoxe pour une révolution communiste dans laquelle c'est normalement le prolétariat qui est l'avant-garde. Mais là, c'était effectivement les paysans qui ont soutenu le Parti communiste, alors pour diverses raisons, aussi parce que il était engagé dans la guerre contre les Japonais, mais aussi parce qu'il y avait une certaine faim de terre. Donc la réforme agraire, c'est normalement la première promesse du Parti communiste aux paysans chinois, à l'ensemble de la paysannerie. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait, c'est pas du tout un mouvement qui est spontané de prise de terre, mais on va envoyer des cadres du parti, qui sont souvent soit dans les villes, soit qui venaient des bases libérées des campagnes du Nord-Ouest, pour aller faire la réforme agraire. C'est-à-dire qu'on va étiqueter les diverses personnes en fonction d'une classe sociale. Alors, le parti a donné une feuille de route, comme on dit aujourd'hui, et la feuille de route, c'est qu'il faut trouver des propriétaires terriens, des paysans riches, des paysans moyens, des paysans pauvres. Alors les paysans pauvres et les paysans moyens pauvres sont la force avancée, l'avant-garde de cette réforme agraire, et puis les autres, ce sont les ennemis. Alors disons que les cadres du parti vont donc aller dans tous les villages, c'est absolument extraordinaire, les étudiants, les cadres, parfois des cadres moyens d'entreprise vont aller dans les campagnes, ils vont s'installer et ils vont étudier, ils vont étiqueter les diverses personnes en fonction de leur classe sociale.
Et c'est comme ça que près de la moitié des terres cultivables changent de main, Jean-Philippe Béja ?
Alors, la moitié des terres cultivables va être redistribuée aux paysans en fonction donc de cette étiquette de classe. La question de l'étiquette de classe, c'est que très souvent, il s'agit de critères qui ne sont pas du tout objectifs. Hein, vous avez des endroits, des régions chinoises où il n'y a pas véritablement de propriétaires terriens, mais il faut quand même en trouver. Alors, on partage tout, on encourage les paysans pauvres à se saisir des biens de ces propriétaires terriens. Alors, les paysans pauvres ne sont pas toujours les plus pauvres. Il s'agit parfois de voyous, de voleurs, etc., et de gens qui veulent faire plaisir ou qui ont l'intention de s'élever dans la hiérarchie du Parti communiste. Et on va arriver donc à effectivement une grande redistribution des terres. Et cette redistribution des terres va provoquer effectivement une augmentation de la production, qui s'explique aussi par le fait que la Chine a été unifiée et on a mis un terme à la guerre civile. Et dans une certaine mesure, on peut dire que vers 1953, une grande partie des paysans chinois, rappelons-le, comme le disait votre extrait, ils sont environ 500 millions de personnes, hein, 80% de la population, sont plutôt satisfaits. Mais en même temps, on a créé une classe de parias. Ce sont les paysans riches et les propriétaires terriens qui étaient parfois très compétents, qui étaient des gens qui avaient joué un rôle important dans le développement de l'agriculture et qui vont se retrouver ostracisés et bientôt, comme on le verra sans doute si on en parle, à partir des coopératives et des communes populaires qui vont se trouver pratiquement persécutées ainsi que leurs enfants.
Et c'est dans ce contexte que Mo Yan, né en 1955 dans le Shandong au nord-est de la Chine, dans quelle mesure, Chantal Chenandro, la famille de Mo Yan subit les effets de cette réforme ou de cette révolution agraire ?
Eh bien, Mo Yan est né dans une famille de paysans moyens pauvres, ce qui est quand même assez confortable, enfin entre guillemets, mais à la tranche supérieure. Donc, c'est quand même un peu, pour lui, un petit peu dangereux, d'autant plus que son grand-père était propriétaire terrien, entre guillemets aussi. En fait, il disposait d'un mou de terre, c'est-à-dire 666 mètres carrés. Une moyenne dit par dérision, les lapins ne venaient même pas y faire leur crotte, c'était trop petit. Donc, au départ, son statut social n'est pas très bon. Et il aura à l'école primaire, lorsqu'il se rebellera contre un instituteur, on va le chasser de l'école. Vu son statut, il n'a pas le droit de se rebeller. Mao a dit il faut se rebeller, mais lui, il n'a pas le droit. Et en fait, donc, il ne poursuivra pas les études primaires. Il sera obligé d'aller travailler dans les champs pendant de longues années.
Alors, on va revenir sur cet épisode de la vie de Mo Yan, qui est assez fondateur dans sa vie et son œuvre. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne un instant, Jean-Philippe Béja, sur ce que vous évoquiez, sur le fait que l'exploitation réelle ou supposée dont la paysannerie était victime avant l'arrivée de Mao au pouvoir a servi de levier aux communistes chinois pour conquérir justement le pouvoir.
Oui, bien entendu. Alors bon, on sait très bien que Mao était originaire de la province du Hunan, hein, et il est allé faire une enquête sur les mouvements paysans dans le Hunan en 1925, où il a rencontré des associations de paysans qui s'étaient créées pour effectivement reprendre la terre aux propriétaires fonciers. Alors, les propriétaires fonciers n'étaient pas nécessairement des grands latifondières absentéistes, mais c'était des gens qui avaient plus de terres que les autres. Et il y a eu ce mouvement spontané de révolte, parce qu'on était quand même dans une situation où on était au bord de la faim, et il suffisait d'un rien pour basculer dans la famine. Et à ce moment-là, les paysans se sont révoltés et ont lancé des mouvements extrêmement violents contre les propriétaires terriens et les paysans riches. Et Mao a donc observé ce ressentiment et ce genre de mouvement en 1927, et ça lui a permis de décrire son analyse de classe de la société chinoise, dans lequel il affirme qu'il faut s'appuyer sur les paysans, sur ce mécontentement, pour prendre le pouvoir, car les paysans sont les véritables prolétaires de la Chine.
Et s'appuyer sur les paysans aussi pour déclencher l'industrialisation du pays, Jean-Philippe Béja, en prélevant le surplus de production agricole des paysans. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que des quotas sont fixés.
Oui. Ça c'est après la prise de pouvoir. Ce que j'étais en train de dire, c'est simplement la manière dont les communistes ont réussi à mobiliser le mécontentement paysan et leur faim de terre pour arriver au pouvoir. C'est pas une révolution socialiste normale. Elle s'est pas passée dans les villes. On a eu une espèce de guerre civile avec des paysans engagés dans l'armée populaire de libération qui ont soutenu le parti communiste. Et c'est la victoire de cette armée qui a abouti à la prise de pouvoir du parti. Mais évidemment, le parti communiste, en bon marxiste, veut absolument développer le prolétariat industriel, qui seul est la véritable avant-garde d'un régime communiste. Donc, il fallait développer l'industrialisation de la Chine. Bon, la Chine, Mao a fait... Alors, on dit toujours Mao est le défenseur des paysans. Pas du tout. Mao a donc décidé, à ce moment-là, d'utiliser les surplus agricoles pour financer le développement de l'industrie. Alors, dans un premier temps, entre 52 et 57, c'est carrément un plan à la soviétique, hein, puisque ce sont les experts soviétiques qui vont établir le plan le plan quinquennal de développement industriel. Et à partir de là, donc, les paysans, même après la réforme agraire, doivent livrer leur surplus à l'État. C'est-à-dire que tous les circuits de commercialisation vont être de plus en plus mis entre les mains de l'État. Et donc, à partir de là, les paysans travaillent bien sûr pour eux parce qu'ils peuvent quand même écouler un certain nombre de leurs produits sur les marchés, mais ils doivent aussi livrer des quotas à l'État. Et c'est le sens même de la transformation en coopérative de niveau inférieur d'abord en 56, puis de niveau supérieur en 57, où effectivement, là, les paysans vont pratiquement abandonner la propriété de leurs terres, après en avoir joui pendant seulement un an ou deux, et à partir de là, l'État va prélever les surplus agricoles pour financer l'industrialisation.
Sur ces coopératives de production, je vous propose d'écouter cette archive du 2 janvier 1957.
Bon, monsieur Xingu, disiez-vous, est directeur d'un village collectivisé. Comment a-t-il été collectivisé, ce village ?
Eh bien, tout simplement, m'a expliqué Xingu, par persuasion. Autrement dit, on a essayé d'expliquer à ces paysans que s'ils mettaient ensemble leurs mulets, leurs charrues et leurs bêches, leurs pioches, et que sais-je encore, c'est à peu près tout ce qu'ils possèdent d'ailleurs, il n'y aurait plus de rendement. Pour donner d'une façon tangible un résultat de ce rendement, le gouvernement a fait des prêts. Avec ces prêts, on a monté une pompe. Avec cette pompe, on a irrigué un certain nombre de mètres carrés de terre et on a apporté pas mal d'engrais. Inutile de dire qu'avec cet effort, la production a monté.
Mais c'est presque un système coopératif plus que collectiviste.
C'est-à-dire qu'il est coopératif, mais collectiviste en ce sens que l'État, malgré tout, tient le haut du pavé et que c'est lui qui dirige le petit pays où se manifeste Xingu.
Ces coopératives agricoles, Jean-Philippe Béja, sont créées aussi parce qu'il y avait l'idée que les pénuries étaient dues à la petitesse des exploitations privées.
Oui, alors bien sûr, il y avait toute cette idée que, effectivement, comme on sait, hein, la population est extrêmement nombreuse en Chine et la terre est en fait seul un dixième de la superficie du pays est cultivable, c'est-à-dire environ 1 million de kilomètres carrés sur 10 millions de kilomètres carrés. Donc bien sûr, il y avait l'idée de la non-viabilité des petites exploitations, mais il y a surtout chez Mao cette conviction profonde idéologique qui est que seule la propriété collective est très nettement supérieure à la propriété individuelle. Bon, c'est une application un peu mécaniste du marxisme, c'est-à-dire que les paysans sont des petits bourgeois et il faut les transformer en prolétaires grâce à la propriété collective. Alors cette collectivisation, bon, votre archive là dit une partie, mais bien sûr, la persuasion, ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas persuadé, vous risquez de vous retrouver dans la position d'un ennemi du peuple et on mettra tout le monde contre vous. Donc,
ça ne se fait pas sans heurts. À ce propos, Chantal Chenandreau, ces heurts et ces mises en collectivité tiennent une place centrale dans l'œuvre de Moyenne.
Surtout dans le roman La dure loi du karma, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un propriétaire foncier qui est très riche, qui a bon cœur, qui aide tout le monde, qui recueille des enfants abandonnés. Mais il est propriétaire terrien, comme disait Jean-Philippe déjà, donc c'est la cible privilégiée de la révolte et de la révolte des paysans pour la création d'une agriculture plus collectivisée. Or, ce paysan meurt, ce propriétaire terrien foncier meurt, mais il va être réincarné dans plusieurs animaux différents. D'abord un âne, ensuite un bœuf, puis un cochon, et enfin un chien. Et donc le roman et toute l'histoire de cette qui parcourt toute la période qui va de 1950 à 1976, même plus le roman va jusqu'à 1998 même. Et on assiste parallèlement à la réincarnation de ces propriétaires fonciers dans la même famille. Ils se retrouvent animal dans la famille où il était propriétaire, et les nouveaux propriétaires sont ses anciens, sont un ancien valet et un membre de la commune populaire, donc qui ont épousé chacun une de ses épouses secondaires, donc c'était une situation un peu acrobatique finalement. Et parallèlement à ces diverses réincarnations, on a la lutte entre deux personnages. L'un, c'est Rong Taiyue, qui est le chef du village et qui sera le directeur de la commune populaire, et un paysan qui est l'ancien valet, qui s'établit à son compte, qui veut absolument pas entrer dans le collectivisme et qui va contre vent et marée garder ce statut. Il continuera à labourer avec un bœuf, avec une charrue en bois.
Et ça va lui être reproché, Chantal.
Pendant des décennies.
Ça va lui être reproché dans le roman. Je voudrais vous faire entendre un extrait de La dure loi du karma qui a été publié en 2006, que vous avez traduit, Chantal Chenandreau. Mo Yen raconte les réincarnations successives de Ximène Nao, vous l'avez dit. Et dans cet extrait, il est réincarné en âne.
Ils ont mangé l'écorce des arbres, les racines des herbes. À présent, ils se ruent comme une horde de loups affamés dans la grande cour de la famille Ximène. Mon maître a beau essayer de me protéger, un bâton à la main, les lueurs féroces qui s'échappent de tous ses yeux l'effraient, balayant son courage. Il jette son gourdin et prend la fuite. Face à cette foule famélique, je frissonne de tout mon corps. Je sais que c'en est fait de ma pauvre vie, que je peux mettre un point final à mon existence en tant qu'âne. La scène de ma réincarnation dans ce corps d'âne, 10 ans auparavant, en ce même lieu, me revient distinctement à la mémoire. Je ferme les yeux, j'entends des gens crier dans la cour. « Pillons, pillons, emportons les céréales de ce paysan qui travaille pour son compte. Tuons, tuons, mettons à mort son âne boiteux. » J'entends les cris de douleur de ma maîtresse et de ses enfants, le bruit d'Erix entre les gens pendant la course pour le pillage. Je sens un coup subi au beau milieu de la tête. Mon âme sort de son orifice, reste suspendue dans les airs. Je vois les gens, à la hache ou au couteau, dépecer le cadavre de l'âne en d'innombrables morceaux.
Ce que l'on entend dans cet extrait, Chantal Chenandreau, c'est à la fois la colère populaire contre ceux qui refusent la collectivisation, mais aussi la faim qui sévit dans les campagnes au point que les villageois mettent à mort un âne pour le manger.
Oui, alors quand Mouyen écrit il y a 10 ans, l'âne est né 10 ans auparavant. Et donc ça se situe en 1960. Donc c'est justement après le grand bond en avant, c'est justement la période de la grande famine qui a sévi pendant de 58 à 60. Ça s'est un peu amélioré en 60, mais ça montre bien ce que les gens avaient à manger. C'est-à-dire que Moyenne lui-même dit qu'il a mangé des écorces d'arbres. Il a même mangé du charbon. Donc c'est vraiment c'est situé dans le contexte très très réel de l'époque.
Cette campagne
même
de collectivisation
autour des renaissances et tout ça.
Et c'est une campagne qui aurait provoqué de 20 à 50 millions de morts, Jean-Philippe Béja.
On peut disons que l'estimation la plus crédible est de 40 millions de morts. Alors, donc, c'est pas la première étape de la collectivisation, hein, c'est la troisième étape. On a vu les coopératives en 56, les coopératives de niveau supérieur en 57, mais ça ne suffit pas à Mao, il faut absolument arriver au communisme en 15 ans. Donc, c'est le grand bond en avant qui est lancé, et on décide là, dans ces conditions, de collectiviser toutes les terres. Les coopératives avaient laissé des lopins individuels aux paysans, et en plus, on estime qu'il faut avoir d'une très très grande surface, et donc les villages sont regroupés, alors les villages sont divisés, on les appelle des équipes de production, ou des brigades de production, et la commune populaire, c'était équivalent à ce qu'était le canton à l'époque. Et c'est une société entièrement militarisée, sous la direction du secrétaire du Parti communiste et du comité du Parti communiste qui rend les paysans serfs. Alors là, ce sont véritablement des serfs qui doivent travailler selon les ordres de la bureaucratie. Par exemple, pendant l'hiver, on décide qu'on va lancer des grands travaux et on crée des canaux, des barrages, etc., sans aucune étude d'impact, enfin, ou étude préliminaire. D'autre part, puisque seule l'industrie permettra d'arriver au communisme, on décide que la Chine va dépasser la production d'acier de l'Angleterre. Comment faire? Eh bien, les paysans doivent apporter leurs casseroles, leurs outils agricoles, etc., et on les fond dans des petits hauts fourneaux qui donnent une espèce de lingot d'un acier totalement inutilisable et qui vont aboutir à un gâchis absolument énorme qui empêchera aussi les paysans de continuer à cultiver la terre. D'autre part, c'est le secrétaire du parti qui décide comment on doit planter. Or, une commune modèle a décidé qu'en plantant les pousses de riz à 5 cm d'espace les uns des autres, ils arrivaient à décupler les rendements en riz de la terre. Dans ces conditions, il va avoir des ordres donnés par tous les responsables de communes populaires de planter très serré, malgré ce que disent les paysans expérimentés. Mmh. Les vieux paysans disent c'est impossible car le riz ne pourra pas pousser, il n'aura pas d'espace. Ils sont immédiatement étiquetés contre-révolutionnaires et envoyés soit en prison, soit mis en travail sous surveillance des masses. Et partout, quand il y a des visites qui viennent du centre, on a des espèces de champs qui sont des champs Potemkin, dans lesquels on montre qu'on a une énorme production. Dans ces conditions, l'État dit, eh bien très bien, puisque vous avez, disons, 10 000 kilos à l'hectare, eh bien vous allez donner à l'État 8 000 kilos. Ce qui fait que les paysans n'ont plus rien. C'est ce qui explique cette famine absolument extraordinaire qui s'est développée entre 59 et 62.
Une famine extraordinaire que Moyenne subit effectivement, et c'est pour cela, parmi d'autres raisons, Chantal Chenandreau, qu'il va avoir ce désir effréné de quitter la campagne, tout sauf la campagne pour Moyenne.
Mais oui, bien sûr, parce que lui, donc, il est exclu de l'école primaire, il ne peut pas faire des études secondaires, il ne peut pas aller à l'université, parce que de toute façon, ce sont les paysans pauvres et moyens pauvres qui décident, puisque les examens d'entrée sont supprimés. Donc à ce moment-là, lui n'a aucune chance, donc il veut absolument quitter ce statut de paysan, et il va travailler effectivement dans une usine de coton pendant un certain temps, et puis la solution à laquelle il pense, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est d'intégrer l'armée.
Mais il veut déjà écrire, Chantal Chenandreau, parce que ce qui est intéressant avec Moyenne, c'est que son désir d'écrire est aussi lié à une volonté d'ascension sociale.
Ah oui, bien sûr, parce qu'il a entendu dire que écrire des histoires, écrire des nouvelles, ça rapportait beaucoup et qu'on mangeait à sa faim. Donc il n'a qu'une idée, c'est de devenir écrivain. Enfin, c'est ce qu'il dit un peu avec autodérision pour ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle il veut devenir écrivain.
Et il se moque beaucoup de lui-même dans La dure loi du karma. On retrouve un personnage, un petit garçon mal élevé, laid et très bavard, qui s'appelle Moyenne.
Oui, alors en fait, c'est vrai que son nom Moyenne ne parle pas. Il ne faut pas trop parler, parce que si on parle de toi à l'extérieur, ça attire des malheurs sur la famille.
C'est ce que signifie le nom Moyenne.
Moyenne ne parle pas, surtout ne parle pas. Et en fait, ensuite, j'ai toujours trouvé très laid, Moyenne. Même il me le disait, qu'il se trouvait laid. Et il avait des complexes d'infériorité pour différentes raisons, son statut social et politique. peut-être son physique, je ne sais pas comment il est, je ne crois pas, mais bon. Et puis le fait de ne pas avoir pu avoir l'instruction, parce qu'il aimait beaucoup l'école. Donc tout ça fait en sorte que, effectivement, il était très poussé. Enfin, il avait une forte envie de s'en sortir, de ne pas. Et une autre solution en Chine pour s'en sortir, c'est aussi la porte de derrière. Hein. Donc on a, si on a des appuis, on peut s'en sortir. Alors on a souvent des appuis quand on a les moyens, quand on est riche.
Alors on va reparler évidemment de la corruption qui est aussi présente dans l'œuvre de Moyenne. Mais d'abord, revenons à ce que vous disiez, Jean-Philippe Béja, sur le fait que l'objectif du grand bond en avant, c'est aussi de créer des unités de production à la fois agricoles et industrielles. Vous avez parlé de ce gâchis de la production d'acier. Moyenne en parle justement dans La dure loi du karma, second extrait.
Les gens du village, en principe, n'entretiennent pas de relations avec ceux de la ferme. Mais l'heure est à l'unification. Elle est de mise dans l'ensemble du pays. On mobilise toutes les forces. Sur la voie la plus large, on aperçoit des charrettes tirées par des bœufs, par des chevaux ou par des hommes. Tous ces véhicules sont chargés de pierres brunes qui seraient du minerai de fer. Ânes et mulets portent aussi sur leur dos ces mêmes pierres brunes qui seraient du minerai de fer. Vieillards, femmes et enfants transportent tous ces pierres brunes qui seraient du minerai de fer. C'est un défilé incessant de chevaux et de voitures, un grouillement de personnes. Tous empruntent cette route pour converger vers le haut fourneau de la ferme d'État. Plus tard, on devait raconter que, lors de la campagne pour les hauts fourneaux, on avait produit des résidus. C'est faux. Les dirigeants du district de Gaomi s'étaient montrés sagaces en utilisant au mieux les ingénieurs droitiers. Et c'est ainsi qu'on avait pu produire de l'acier véritable.
Chantal Chenandreau, l'ironie de Moyenne se déploie ici dans toute sa splendeur.
Oh oui, 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 c'est cette ironie qui peut des fois être même très, très féroce. Hein. Et quand vous parlez de son passage, enfin de son intervention dans le roman entier, c'est vrai que c'est de l'autodérision, mais c'est très fréquent dans son œuvre. Moyenne intervient, il apparaît comme ça, un petit peu comme un contrepoint. Souvent dans les romans chinois, c'est un peu le bonnet du village qui détient la vérité. Là, c'est un enfant un peu espiègle, un peu livré à lui-même, qui fait des siennes. Il raconte qu'il est même allé jusqu'à pisser sur les courroies de transmission de je ne sais plus quel atelier de la commune populaire. Et en fait, il fait des siennes, Moyenne. Il n'arrête pas dans ce roman de jouer le trouble-million.
Et ce faisant, il critique cette tentative d'industrialisation ratée. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Jean-Philippe Béja?
Je crois qu'il montre d'ailleurs plusieurs choses. Évidemment, ce qui serait du minerai de fer, c'est évidemment la manière dont ça a été. On a vu énormément de choses comme ça pendant cette période du grand bond en avant. Il y a eu un épisode absolument tragique d'ailleurs, qui était que on était dans une telle famine que les gens mangeaient de la terre. On appelait cette terre la Guanyin Trou, c'est-à-dire la terre de la Guanyin, de la Bodhisattva que les Chinois adorent et qui aurait permis de lutter contre la famine. Énormément de gens sont morts parce que ça provoquait des occlusions intestinales. Le minerai de fer dont on parle là, c'est évidemment plus ou moins du minerai de fer, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cet extrait, Moyenne dit que si on a réussi à produire de l'acier dans cette commune populaire, c'est parce qu'on s'est appuyé sur qui ? Sur l'ingénieur droitier. Il fait référence à la plupart, aux intellectuels et aux personnes qui, en 1957, avaient répondu à l'appel de Mao, qui avait dit que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent. Un certain nombre de gens avaient critiqué la manière dont le parti avait exercé le pouvoir, et alors qu'on leur avait promis l'impunité et qu'au contraire, on les encensait en disant qu'ils aidaient le parti à améliorer sa gouvernance, en fait, ils ont été envoyés dans les campagnes ou dans les camps de rééducation par le travail, et il y en avait énormément dans les campagnes, qui effectivement ont essayé de jouer un rôle important pour développer ces villages. Donc ce qui est important, c'est aussi ce statut. Ce qu'il disait aussi à l'époque, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller à l'université? parce que il appartient à une des mauvaises catégories sociales. Alors, c'est pas vraiment les paysans au moment de la révolution culturelle, c'est pas vraiment les paysans pauvres qui désignent officiellement, ce sont eux qui désignent les candidats à l'université. En réalité, ce sont les cadres du parti. Donc, si vous n'êtes pas bien avec les cadres du parti, vous n'irez pas à l'université. Et effectivement, pour les paysans, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'entrer dans l'armée. Mais là aussi, il faut souvent avoir ce qu'on appelle des guanxi, c'est-à-dire des relations personnelles qui vous permettent de passer par la porte de derrière. Si vous voulez, donc l'important dans ces... Alors, il y a le délire de la politique de Mao qui cherche à industrialiser les campagnes sans aucune préparation, sans aucune connaissance préalable, et qui affirme avec des cadres qui affirment simplement des statistiques délirantes. Mais en même temps, il y a ce drame des statuts qui sont donnés à chaque personne, à chaque citoyen chinois, et qui aboutissent à un ostracisme terrible pour une grande partie de la population.
Après,
enfin, il y a simplement une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'au moment du grand bond en avant, on a créé le hukou, le livret de résidence. Le hukou interdit aux paysans d'aller dans les villes travailler. C'est-à-dire que c'est l'interdiction totale de l'exode rural. De plus, le hukou se transmet par les femmes. Or, les femmes sont peu mobiles, alors qu'en Chine, normalement, tout est patrilinéaire. Là, ça veut dire que si un paysan, par hasard, épousait une paysanne, ses enfants seraient obligés de résider dans les campagnes, ils ne pourraient pas aller en ville. Donc cette impossibilité, on aboutit à une espèce d'apartheid où les paysans, alors que partout on raconte que Mao a libéré les paysans et que les paysans étaient très heureux en Chine, c'est exactement le contraire, ce sont les plus exploités, ceux qui ont le moins de droits et qui ne peuvent même pas quitter la campagne en période de famine. Ils vont devoir mourir sur place. C'est ainsi qu'on a une telle mortalité au cours de la famine qui suit le grand bond.
Et après ces bouleversements, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour les paysans chinois dans le sillage des réformes de Deng Xiaoping dans les années 80. On en parle dans un instant. De Sonia Calico, une DJ taïwanaise. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho ? Et nous continuons à parler des campagnes chinoises et des représentations qu'en offrent les romans de Mo Yan. Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Béja et de Chantal Chenandreau. Alors il faut dire un mot du positionnement de Mo Yan par rapport au régime. Il a pu être taxé de complaisance, Chantal Chenandreau, et en même temps, il ne se prive pas de disséminer dans ses romans certaines critiques. On peut parler d'une certaine ambivalence dans son rapport aux autorités de Pékin?
Je crois que, en fait, pour lui, la difficulté, c'est de trop en dire et de ne pas en dire assez. C'est ce qu'on lui a reproché. C'est ce qu'on lui a reproché beaucoup de personnes quand il a obtenu le prix Nobel de littérature.
En
2011, il a été nommé vice-président de l'Association des écrivains chinois. On lui a aussi reproché. Mais dans ses romans, franchement, il faut lire entre les lignes, et puis il emploie aussi la stratégie des anciens lettrés chinois, c'est-à-dire le contournement. Il n'y va pas toujours directement. Là, dans l'exemple dont on a parlé tout à l'heure à propos du haut fourneau, il cite trois fois ce serait du minerai de fer. Donc la répétition en elle-même, c'est subversif. Et puis Jean-Philippe déjà l'a souligné, ce sont les droitistes, les droitiers qui viennent apporter leur aide technique aux paysans. Et de même, ce sont les droitistes qui sont venus, qui étaient allés à la ferme d'État, qui étaient condamnés à travailler à la ferme d'État, qui viennent scolariser les enfants de l'école.
Donc c'est grâce à son art du contournement que Moyenne n'a jamais été inquiété par la censure et qu'il réussit à critiquer sans être inquiété.
Alors, quand il était dans l'armée, il a quitté l'armée en 1997, si je ne me trompe pas. Et quand il était dans l'armée, il écrivait quand même, quand il a écrit la mélopée de l'Alpe Paradisiaque, il l'a écrite en 1987 à Chaux. Et après un incident de révolte paysanne, et c'est bien longtemps après la collectivisation, puisque à partir de 1977-78, les paysans travaillaient sous forme de contrat privé. On avait arrêté la collectivisation, mais les fermes d'État aussi d'ailleurs étaient sous contrat. Mais en fait, Moyenne.
Se sent libre, en tout cas, de pouvoir critiquer, alors même qu'il est encore à l'armée.
C'est assez paradoxal. Alors, il a été inquiété aussi. Il y a certains de ses livres qui ont été provisoirement, que lui-même a décidé d'arrêter de revoir, à empêcher une nouvelle publication. Bon, pourquoi? Ça, je ne sais pas très bien. Mais il a quand même eu des critiques, de la part des autorités. En fait, il a une attitude qui est ambigu, mais souvent il est très subversif. Moi je trouve qu'il est quand même son écriture, tous ses par des détours, il est fondamentalement parce qu'il ne supporte pas la justice sociale. Donc il dit que lui il veut décrire les zones sombres du cœur humain, même si c'est cœur humain est fait de contradictions. Et il veut toujours se placer aux côtés de l'humain pour pouvoir transcender le politique. Donc c'est quand même une prise de position. Il le dit dans le discours de réception du prix Nobel.
Et alors,
c'est assez clair, moi, il me semble quand même.
Il est très attentif à ces mouvements sociaux qui, effectivement, ces mouvements de révolte paysanne. Il faut peut-être expliquer, Jean-Philippe Béja, qu'effectivement, les campagnes chinoises de cette seconde moitié du XXe siècle sont traversées par des mouvements de collectivisation et de décollectivisation, en particulier à partir de la fin des années 70.
Oui, alors juste pour revenir un tout petit peu sur le comportement de Moyenne, disons qu'il a eu, il n'a jamais attaqué de front le pouvoir, et il a plutôt édulcoré ses positions, et c'est ainsi qu'il a échappé à tous les mouvements de critique. De plus, quand il a obtenu son prix Nobel, il y avait quand même eu un autre. Chinois qui avait eu le prix Nobel, pas de littérature d'ailleurs, qui était Gao Xinjian, il n'en a pas parlé, et il y avait eu surtout en 2010, Liu Xiaobo qui avait eu le prix Nobel de la paix. Or là-dessus, Moyenne est évidemment resté tout à fait silencieux pour ne pas mettre en danger ses rapports avec le Parti communiste. Donc il n'est pas entièrement, c'est vrai qu'il a pratiqué la stratégie du contournement, mais disons qu'il n'a pas utilisé l'aura et le pouvoir que lui donnait le prix Nobel pour essayer de faire avancer les libertés en Chine. Oui, alors vous disiez effectivement à partir de 1970, alors de 78, disons, c'est entre 78 et 84 que se fait véritablement la décollectivisation de fait. Mais rappelons que les paysans n'ont pas la propriété de la terre est divisée et ils n'en ont que l'usufruit. Alors à partir de ce moment-là, il y a eu énormément de mouvements paysans dans les années 80, et surtout dans les années 90, contre la taxation. Alors là, on revient véritablement à ce qu'étaient les mouvements paysans des années d'avant la prise de pouvoir par les communistes. Très souvent, les révoltes qui avaient eu lieu se faisaient contre l'État, parce que c'était l'État qui imposait des taxes tout à fait insupportables et qui rendait la vie impossible. Alors, en Chine, vous avez après les réformes, vous avez deux facteurs essentiels de ces révoltes. D'une part, c'est les impôts agricoles qui demandent une trop grande part de la production, et ça a provoqué un certain nombre de révoltes dans l'ensemble de la Chine, mais ces taxes ont été profondément réduites à partir de 2005. Et donc ça, de ce côté-là, ça s'est plutôt arrangé. L'autre raison des révoltes, c'est l'accaparement des terres par les villes. C'est-à-dire que toutes les paysans qui sont autour des villes se retrouvent sans terre, on leur prend leurs terres pour construire des zones de développement, c'est pour de la spéculation immobilière. Et disons que les indemnisations sont absolument ridicules. Ça, pour les routes et pour les zones de développement qui se multiplient dans toute la Chine à partir des années 90. Toute ville, n'importe quel chef-lieu de district, bon, il y avait 3000 districts en Chine, n'importe quel chef-lieu, ce sera une, disons, l'équivalent d'un chef-lieu de département, lance sa zone économique, mais c'est surtout pour permettre au cadre urbain de spéculer sur la valeur de la terre.
Mais alors, donc, il y a des révoltes, Jean-Philippe Béja, mais il y a aussi une augmentation de la production agricole. Il y a aussi des effets positifs de cette libéralisation de l'économie rurale avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir.
Ah, non, bien sûr, attendez. Là, c'est bien, j'étais en train de parler des révoltes, c'est pour ça. Mais bien entendu, à partir de la décollectivisation de fait, la production explose. Hein. En 1984, on dépasse toutes les chiffres records de toute la production de céréales en Chine, et ça ne va pas cesser. Disons que dans un premier temps, le fait de cette décollectivisation de fait et de la restauration des marchés agricoles et des activités annexes, des activités artisanales et des activités industrielles vont aboutir à une énorme augmentation de la production. Parce que il faut rappeler que à partir de la révolution culturelle de 66, la collectivisation était déjà moins forte et les paysans travaillaient essentiellement sur leurs lopins de terre individuels. Alors à partir du moment où ils peuvent travailler sur leurs terres, ça augmente automatiquement la production de manière spectaculaire. Mais dans un deuxième temps, il va y avoir l'industrialisation qui se développe notamment dans les zones côtières, et les paysans l'emprise du roucrol, de ce livret de résidence, devient moins forte. C'est-à-dire qu'on autorise les paysans à aller travailler dans les usines. Alors beaucoup d'entre eux vont à ce moment-là, les jeunes, hein, dans l'ensemble, alors jeunes hommes et jeunes femmes, vont aller travailler dans les grandes usines du Guangdong, des zones côtières, qui sont opérées par des entrepreneurs de Hong Kong ou des entrepreneurs occidentaux. Mmh. C'est ainsi que la Chine va devenir l'usine du monde, avec essentiellement de la main-d'œuvre qui vient des campagnes, mais qui n'a pas véritablement, qui reste toujours de statut rural. Mmh. C'est la chose qu'il faut comprendre, qui est pas simple à comprendre en fait, c'est que les ouvriers qui travaillent dans les usines en Chine, dans les zones côtières, mais aussi à Pékin et ailleurs, ou même les serveurs des restaurants, sont très souvent gardent leur statut de paysan. Alors théoriquement, ils ont droit à la terre, mais en réalité, ils n'ont aucun des droits sociaux qu'ont les ouvriers.
Alors effectivement, il y a 200 millions de paysans qui vont se trouver en quelque sorte sans travail sur le carreau à cause de la mécanisation. Et puis en même temps, il y a cette révolution verte qui permet une augmentation de la production agricole grâce à la généralisation de l'usage des pesticides. Alors vous avez cité La Mélopée de l'ail paradisiaque, ce roman de Moyenne paru en 1988, Chantal Chenandreau. Dans ce roman, les paysans d'un village du Shandong, nord-est de la Chine, donc, vivent de la culture de l'ail. Ils sont confrontés à la corruption des fonctionnaires. C'est le roman qui incarne le plus cette nouvelle ère ouverte par Deng Xiaoping.
Oui, en fait. Ce roman, il est paru en 87 en Chine. Les paysans sont confrontés en fait à une mégeance de la culture principale, l'ail, car les autorités ont demandé à ce que la production augmente, justement, c'est ça. Et lors de la vente de l'ail, il y a très peu de points mis à leur disposition pour venir apporter leurs marchandises. Donc il y a des embouteillages énormes et ils n'arrivent pas à... Ils sont obligés de retourner chez eux avec leur ail. Et l'ail, ça s'abîme très vite. Donc c'est une question de temps. Il faut absolument qu'ils trouvent un moyen pour le vendre. Donc on a instauré parfois dans certains cantons des centres de collecte de l'ail. Mais souvent, on les referme, on leur redemande de retourner au silo réfrigéré, qui est en fait l'endroit où, au départ, ils devaient les envoyer. Donc les paysans se sont révoltés, mais c'est une histoire vraie, qui a eu lieu en 1986, dans la même province, dans la province de Moyenne, et ils ont mis à sac la préfecture. Donc, contre la pression fiscale, contre la corruption des fonctionnaires, contre l'aveuglement du parti, Et les principaux insurgés sont arrêtés, emprisonnés. Et Moyenne décrit les sévices qu'on leur fait subir en prison, ce n'est pas triste. Et ils sont jugés. Et lors du jugement, un militaire rendu à la vie civile, formule une plaidoirie. Et les fonctionnaires locaux pointés du doigt seront destitués de leur poste. Mais, et là, Moyenne est très ironique, il ajoute à la fin du récit, ils seront nommés ailleurs.
Oui, on retrouve toujours cette ironie de Moyenne. Et alors, pour évoquer cette ambiguïté de Moyenne dont on parlait tout à l'heure vis-à-vis du pouvoir, peut-être qu'il faut expliquer que Moyenne estime devoir son ascension sociale au régime, lui qui rêvait justement de quitter pour de bon cette campagne tant détestée. Et je vous propose de l'écouter.
Quand j'étais petit, la Chine était en pleine révolution culturelle, si bien que je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école. J'ai été chassé de l'école et j'ai dû garder les bêtes toute la journée, alors que d'autres enfants de mon âge avaient le droit d'aller à l'école. Moi, je passais devant l'école avec les moutons, avec les vaches, et je voyais mes anciens camarades de classe. Je les voyais à l'école et j'étais très triste en les voyant encore à l'école. Car j'avais encore très envie d'étudier, moi. Et j'essayais à tout prix de lire. Je m'efforçais de lire tous les livres qu'il y avait dans le village. Et si je ne trouvais pas de livres, je feuilletais le dictionnaire. Si bien que j'ai fini par complètement user ce dictionnaire à force de le lire. Et aujourd'hui, il est dans le musée de Moyenne, dans mon village natal.
Extrait d'un entretien réalisé dans l'émission Hors Champ sur France Culture et diffusé le 28 octobre 2014. Alors, il y a deux éléments qui me semblent importants ici, Chantal Chenandreau. Il y a d'un côté cette soif d'apprendre de Moyenne, une soif insatiable dont on a déjà parlé, mais aussi sa proximité avec les animaux qui occupent une place importante dans son œuvre.
Ah oui, c'est très important. Mais c'est très vraiment. En plus, je pense que c'est lié à son enfance. Justement, quand il était dans les champs, il était en contact avec la nature et dans tout. Enfin, moi, je voulais aussi parler de la compassion dans l'œuvre de Moyenne parce que il décrit des horreurs, il décrit des choses barbares. Les récits sont souvent marqués par la violence, mais il est toujours. En fait, il dit qu'il a vu tellement d'injustice, de souffrance dans ce monde que son cœur est plein de compassion pour l'humain et de colère contre les injustices sociales. Alors peut-être qu'il ne critique pas effectivement directement le gouvernement, les instances politiques, mais il dénonce les noirceurs de la société. Et en même temps, cette compassion, quand on reprend la durée du karma, on la trouve aussi en miroir chez les animaux. C'est-à-dire que l'âne, dans lequel s'est réincarné le propriétaire foncier, le bœuf, sont capables de pleurer devant le sort de leur maître, devant le sort que subit leur maître. Et Moyenne aussi, dans d'autres récits, parle d'un récit sur l'enfance qui est la faute. Il parle d'une tortue, il parle d'un enfant qui voit une tortue dans la jarre à eau, et il dit, je la regarde, enfin, je ne cite pas, hein, je la regarde et je m'aperçois que son intelligence n'est pas inférieure à la mienne. Donc il y a cette espèce de symbiose entre l'homme et l'animal, et ça revient dans beaucoup de récits. C'est assez intéressant finalement.
Ce qui est intéressant aussi, Chantal Chenandreau, dans l'interview que l'on vient d'entendre, c'est que on mesure bien cet écart dont Moyenne semble avoir conscience lui-même entre son enfance pauvre à la campagne et l'ultime reconnaissance dont il bénéficie, c'est-à-dire un musée à son nom dans sa ville natale, sans oublier évidemment le Nobel de littérature.
Ah non, mais je crois que le musée, c'est pas trop. Je crois pas qu'il soit enchanté que le musée, l'histoire du musée, je ne suis pas sûre qu'il soit.
Bon, j'ai quelques
doutes sur. Il accepte, parce que Moyenne, en fait, est. Vous savez, quand on lui demande des fois si on peut corriger un petit quelque chose, il me dit mais faites, mais corrigez. Il est quand même très souple. Ça, c'est un peu son tempérament, finalement. Comme ça, mais en fait, non, parce qu'il. Il est capable d'être très subversif d'une façon peut-être détournée.
Mais il a tout de même un parcours d'ascension sociale qui est étonnant, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais ce parcours d'ascension sociale, il est dû à son œuvre, à son talent d'écrivain. Et moi, je vous assure que le jour de, où j'ai vu le roi de Suède remettre le prix Nobel à Moyenne en grande pompe, j'étais très émue parce que j'avais l'impression de se voir tel qu'il se décrit dans son œuvre, petit paysan avec ses chaussures de paille en hiver dans la neige, avec les doigts complètement couverts d'engelures, et j'ai trouvé que c'était quand même un pied de nez qui était fait à pas mal d'intellectuels chinois qui le critiquent encore, hein, non seulement d'un point de vue politique, mais bon.
On arrive presque au terme de cette émission. On a vu tout au long de l'émission que Moyenne décrivait cette campagne et retraçait les transformations et les politiques de collectivisation, de décollectivisation qui ont changé la face du pays. Aujourd'hui, la Chine, c'est un pays majoritairement urbain, Jean-Philippe Béja, et les parcelles à la campagne se sont agrandies, les cultures diversifiées, mais ces campagnes chinoises, elles restent encore pauvre.
Écoutez, il faut voir, ça dépend évidemment des campagnes. Quand vous êtes autour du Zhejiang, quand vous êtes vers Shanghai, évidemment, les campagnes ne sont pas pauvres. Mais effectivement, si vous allez par contre vers l'ouest de la Chine, au Sichuan par exemple, ou dans pas mal de régions du nord-ouest aussi, c'est extérieur. Je ne parle pas évidemment du Xinjiang et des zones de minorités nationales. Il y a effectivement une assez grande pauvreté encore. Il y a des endroits où il n'y a pas de route. C'est vrai que de plus en plus, il y a la 4G ou la 3G. Internet a atteint toutes les zones de la campagne chinoise.
C'est un vaste défi quand on voit la taille de la Chine, en effet.
Effectivement, il y a moins de zones blanches peut-être en Chine qu'en France. Mais ce qui est impressionnant, évidemment, c'est que les paysans quittent les campagnes. Hein. Si vous allez dans les villages chinois aujourd'hui, dans les campagnes qui ne sont pas celles des grandes fermes des régions proches des régions urbaines, vous avez uniquement des vieux et des enfants. Or, le problème de l'accès à l'éducation, par exemple, pour les enfants, et le problème d'ailleurs plus profondément du développement même de ces enfants qui ne sont en contact qu'avec des vieux qui n'ont pas vraiment vu le monde, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est pourquoi la plupart des gens d'âge adulte essayent de faire venir leurs enfants, les éduquer dans les zones urbaines, mais malheureusement c'est impossible car on les renvoie chez eux, la population bas de gamme. Donc si vous voulez, vous avez des campagnes qui sont largement dépeuplées, où il y a des vieux qui sont en train de travailler sur leur lopin de terre, et puis d'un autre côté vous avez des campagnes modernes. Il y a des très 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 grosses différences, mais il y a encore aujourd'hui de la pauvreté qui est due à l'isolement et à la difficulté de se déplacer. De même, il faut quand même rappeler que l'importance du livret de résidence n'est plus aussi grande aujourd'hui, elle continue de plomber l'avenir des enfants de paysans. Ces enfants de paysans qui, je le répète, ne peuvent pas aller dans les meilleures écoles. Mais... enfin, il faut bien voir que pour entrer à l'université, quand vous êtes originaire des campagnes, vous avez très très peu de chance, ou alors vous irez dans des universités bidons qui ne vous amènent nulle part et qui peuvent prélever toutes les richesses d'une famille.
D'où le fait que Moyenne passe par l'armée pour ensuite arriver à l'université, lui qui n'avait pas le bon statut pour aller à l'université, comme il le raconte dans son roman Le Grand Chambard, que vous avez également traduit, Chantal Chenandreau. Un grand merci à tous les deux, Jean-Philippe Béja et Chantal Chenandreau, de nous avoir emmenés dans l'univers de Moyenne et des campagnes chinoises. Un grand merci également à Antoine Beauchamp qui nous a prêté sa voix pour les lectures, les références des romans de Moyenne que nous avons évoqué tout au long de cette émission sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
La théorie des enchères récompensée hier par le prix Nobel d'économie, avec ce palmarès, l'Académie réaffirme une vision plutôt plus classique de l'économie, mais elle met aussi l'accent sur l'économie pratique ou politique.
Oui, c'est sûr que le choix de l'Académie tranche avec l'année dernière. À la place du couple Duflo-Banerjee qui mettait la lumière sur l'économie expérimentale et la lutte contre la pauvreté, cette fois le jury a retenu deux vieux économistes de Stanford, Robert Wilson et Paul Milgrom, dont le travail depuis les années 70 porte sur un des mécanismes de marché emblématiques, les ventes aux enchères. Recentrage classique et libéral selon Libération, l'Académie consacre à nouveau le rôle central du marché, écrit le journal, mais pour Jean-Marc Vittori dans Les Échos, le revirement n'est pas si complet puisque là encore, c'est un couple de chercheurs dont l'un est le directeur de thèse de l'autre et puis surtout, l'Académie, sans le dire, récompense une nouvelle fois des travaux qui donnent un rôle central au comportement humain avec une portée autant théorique que pratique, prend soin de préciser le jury, contrairement à la dernière fois où la théorie des enchères avait été récompensée, c'était il y a 26 ans.
Des applications pratiques pour les entreprises et sur les ventes effectuées par les États.
Oui, là on est loin des formats pittoresques, hein, enchères au cadran ou à la bougie pour vendre toutes sortes d'objets. Les enchères sont aussi un moyen privilégié de vente de biens ou services publics, droits de forage offshore, fourniture d'électricité en gros, slots, c'est-à-dire les créneaux horaires dans les aéroports, en passant par les quotas de pêche et les quotas carbone, bien sûr les licences téléphoniques. Le problème, c'est que le système utilisé auparavant il y a 40 ans, c'est-à-dire de longues auditions ou une loterie, étaient tous les deux insatisfaisants et les États n'y gagnaient rien ou presque. Or, en 1993, tout change lors de l'attribution des licences télécom aux opérateurs américains. Pacific Bell recrute Wilson et Milgrom pour l'aider à remporter l'enchère en travaillant sur différents formats.
Et un nouveau format en particulier, dit le jury du Nobel, ce sont les enchères simultanées à plusieurs tours.
Oui, comme pour l'attribution des fréquences 5G, toutes ces enchères ont un point commun, elles proposent des ensembles de biens et leur valeur est difficilement prévisible à l'avance, comme ce serait le cas d'un diamant brut, par exemple, avant taille, explique le Financial Times, et de tout ce qui, en général, a un rendement qui dépend de beaucoup d'aléas, réserves de pétrole incertaines, par exemple, conditions météo. Ainsi, Wilson, père des enchères pratiques, comme l'appelle un professeur d'Oxford, a montré la voie. Milgrove, lui, a inventé les modalités. Écoutez ce qu'en disait Wilson hier.
Moi, j'avais une conception traditionnelle des enchères. Mais Milgrom était très innovant dans la manière dont il concevait les enchères simultanées, c'est-à-dire dans lesquelles les acheteurs font des offres pour un ensemble de licences, en inventant des primes, des compensations, tout un système assez compliqué en fait. Et en un sens, il a dû penser hors des clous pour créer un format de vente très nouveau, avec une attention particulière aux bonnes incitations, pour que les acheteurs soient sûrs dans leurs offres, ou au moins le plus sûr possible.
Voilà, le résultat à l'époque, c'était plus de 120 milliards de dollars de recettes pour l'État américain, alors qu'il ne touchait rien dans les enchères qu'il utilisait auparavant.
Longue histoire de la quête des enchères parfaites, à la fois théorie des marchés optimaux et outils de politique économique.
Oui, parce qu'elles sont des jeux de rareté organisée, les enchères sont la mouche drosophile, c'est-à-dire l'animal de laboratoire parfaite pour les économistes, explique le Financial Times, pour développer de nouvelles idées sur la compétition et la théorie des jeux. L'idée est bien sûr de maximiser les gains pour les vendeurs et les acheteurs, ce qui veut dire aussi pour un État qui veut mettre des concessions en vente, confier les activités dans les mains des meilleurs agents, poursuit le journal. À l'époque des travaux de Wilson et Milgrom dans les années 80, les économistes se débattent avec les démons des enchères, on pourrait dire la malédiction du vainqueur ou les offres mutuellement destructrices, et avec ces nouveaux formats effectivement, le couple Wilson-Grove apporte une solution pratique d'une redoutable complexité théorique et mathématique, puisque l'idée un peu paranoïaque de Milgrom est de jouer sur la conscience qu'ont les acheteurs de l'état du marché.
Et c'est ce qui s'est passé en France avec les enchères pour les fréquences 5G depuis fin septembre.
Et oui, l'État avait mis en jeu 11 blocs de fréquences à répartir entre les 4 opérateurs et c'est là qu'interviennent les innovations de Wilson et Milgrom qui permettent à l'État de fixer ses règles. Pas plus de 5 blocs par prétendant, pas plus de 11 blocs au total, sinon c'est la remise en jeu avec un prix qui augmente à chaque tour. Ainsi, au bout de 17 tours, Orange qui voulait 5 blocs a fini par baisser ses exigences à 4, les autres opérateurs à 3 et 2 blocs, et l'État a fait monter le prix à 126 millions d'euros par bloc, récupérant 700 millions d'euros de plus qu'avec le prix de départ. L'objectif est donc atteint pour l'instant, viser le plus haut prix pour les blocs et le plus de concurrence dans leur exploitation.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho. Un grand merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'Écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À à la réalisation Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui Élise Le. Demain, c'est le cinéma de Jia Zhongke qui nous offrira un autre regard sur la Chine contemporaine. On parlera de la montée des inégalités et de la vie des riches en compagnie d'Alain Wang et de Louisa Prudentino. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.